Cette semaine, dans ses conversations avec Daniel Habert, on revient sur la visite de Benjamin Netanyahu à Washington et bien sûr sur les conséquences géopolitiques de sa rencontre avec le président américain Donald Trump. Voici Daniel Habert, il est au micro, comme d'habitude, de Blaise van der Linden.
Daniel Habert, bonjour.
Bonjour Blaise et bonjour chers auditeurs.
Merci d'être avec nous ce matin sur Radio Judaïka. Comme tous les lundis matins, nous allons décrypter la situation géopolitique. Et cette semaine, à moins de vivre dans une grotte, on a vu cette visite de Benjamin Netanyahou à Washington. Il est arrivé lundi, il est reparti ce week-end. Alors, on en a beaucoup entendu parler de cette visite, Daniel Habert. Une rencontre qui a suscité des commentaires. Pouvons-nous faire un bilan géopolitique?
Oui, il y a trois résultats. C'est le troisième dont on a beaucoup parlé, mais je crois que c'est pas forcément le plus important. Le plus important, c'est le symbole. C'est le symbole, c'est la photo, c'est les vidéos, c'est les deux hommes qui se parlent. Et là, ça a effacé d'un coup toutes les interrogations qu'on pouvait avoir, parce qu'on disait que Trump avait peut-être un ressentiment vis-à-vis de Bibi, qui avait été trop prompt à féliciter Biden de sa victoire. Bon, non, ce sont deux hommes qui ont le même tempérament, qui se parlent directement, j'allais dire en anglais ou même en américain, qui ont des visions géopolitiques qui sont pas les mêmes, mais qui sont compatibles. Et donc, il est certain que le fait, en plus, que ce soit la première visite d'un chef de gouvernement étranger, c'est vraiment la valeur symbolique, c'est le plus important, de très loin. Le deuxième résultat, c'est probablement qu'ils ont parlé de l'Iran. Peu, tous les deux, beaucoup leur délégation. On n'en a pas entendu beaucoup parler, mais je pense que c'est le cœur de la rencontre et je vous dirai ce que j'en pense, peut-être tout de suite après. La troisième, évidemment, c'est ce pavé dans la mare de Trump qui parle de Gaza et qui dit, voilà, moi j'ai une solution pour Gaza, on va sortir temporairement ou pas les gens pour déblayer et puis construire un Miami, un Miami oriental. C'est évidemment, c'est ce qui a suscité le plus de commentaires. Mais comment commenter un pavé? Un pavé, c'est fait exprès pour provoquer, pour susciter des débats. Ce qu'on a vu, c'est que tous ceux qui sont concernés directement ou indirectement ont dit non. Mais c'est normal et ça ne veut pas dire qu'ils diront non toujours et peut-être qu'ils diront oui mais ou pourquoi pas et donc ça Trump c'est un iconoclaste, il casse les codes, il casse les situations parce que les situations jusqu'ici elles sont figées, elles nous conduisent dans l'impasse, faut bien trouver autre chose. Il faut admirer le sang-froid de Bibi qui je pense n'était pas très au courant, qui a fait semblant ni d'acquiescer ni de nier parce que il a plutôt bien géré cette séquence. Il peut pas être accusé d'avoir mis de l'huile sur le feu, mais au fond son regard c'était celui de tout le monde et au fond c'est bête, c'est fou, mais pourquoi pas. Donc voilà. Voilà un petit peu le résultat, très positif évidemment pour Israël.
Alors, vous l'avez évoqué, hein, les deux hommes ont assurément parlé de la question iranienne. Est-ce qu'on sait ce qu'ils se sont dit?
Écoutez, ça n'a pas fuité parce que d'abord ils en parlent depuis très, très longtemps, depuis que Trump est élu, il y a déjà des pré-négociations, ce qu'on appelle des préambules aux négociations, des négociations sur la négociation qui sont engagées avec l'Iran. D'ailleurs, l'Iran a officiellement dit qu'elle était prête à négocier. Et très curieusement, Trump a dit, moi je vais rajouter encore des sanctions, on se demande d'ailleurs lesquelles, parce qu'il y en a déjà tellement, pour mettre la pression. Donc je pense que l'Iran est prête à négocier parce qu'elle n'a pas trop le choix et qu'elle espère par la négociation obtenir de bons résultats, en tout cas des résultats moins mauvais que l'absence de négociation. Et justement, il faut dire qu'entre Israël et les États-Unis, il y a le même objectif, mais pas les mêmes moyens. Le même objectif, il est clair, hein, il n'est pas question qu'il faut faire en sorte que l'Iran ne soit plus le facteur principal de déstabilisation du Moyen-Orient. Si on veut stabiliser le Moyen-Orient, si on veut un Moyen-Orient qui se développe, il faut extirper cette menace constante depuis 79 de la menace islamique iranienne. Pour ça, il faut mettre fin au programme nucléaire, au mettre fin au programme de missiles et surtout au financement de toutes ces milices que Israël a dû combattre, et ça a coûté très cher à Israël, qui sont donc dans tous ces 6 pays qui entourent Israël, et il y en a encore d'autres probablement ailleurs. Et donc l'objectif est commun. Par contre, la méthode, c'est pour les Israéliens, ils estiment qu'il n'y en a pas d'autre que de détruire les sites nucléaires et les sites de missiles. Ça a déjà commencé au mois d'octobre, hein, et de surtout penser à un changement de régime, parce que c'est ça qu'il y a derrière. Ni les États-Unis ni Israël ne sont des ennemis du peuple iranien, qui a toujours été un peuple ami de l'Occident. Donc il faut revenir à cette parenthèse que les ayatollahs ont introduite, enfin ça fait quand même 50 ans, et essayer de revenir à quelque chose de plus stable, sans qu'on sait que la population iranienne, elle est favorable à un changement de régime. Donc on voit bien que face à Bibi, Trump lui dit non, il faut essayer de trouver une négociation. Mais je crois qu'ils sont tous les deux d'accord pour dire qu'il faut à la fois négocier et préparer une attaque. Et donc je pense que la visite du patron du CENTCOM en Israël récemment a pour but de préparer, au vu et au su de l'Iran, il faut que l'Iran sache que Israël et les États-Unis ensemble préparent une éventuelle attaque si la négociation ne... Ça, c'est la vraie pression sur la négociation et pour qu'elle se débouche bien. Voilà, donc voilà un petit peu ce qui se trame, sachant que c'est toujours le ministère de la Défense américain qui est le meilleur ami d'Israël depuis des décennies et que ça continue aujourd'hui.
On a commencé par faire un bilan de cette rencontre. Alors, que peut-on en sortir sur les relations Israël-États-Unis?
Écoutez, c'est la question au fond la plus importante, hein, et ce symbole du rapprochement des deux hommes, c'est aussi le symbole de l'évolution des relations entre les États-Unis et Israël. Ça n'a jamais été un long fleuve tranquille. Jusqu'à 1967, même 70, les Américains s'occupaient pas d'Israël. C'était la France d'ailleurs qui soutenait Israël jusqu'en 67, jusqu'à ce que De Gaulle trahisse la France, trahisse Israël. Et depuis, donc, les Américains sont impliqués, mais avec des hauts et des bas. Il y a des présidents américains qui ont été au fond relativement hostiles à Israël, Eisenhower, Carter et évidemment Obama. Biden a essayé de ménager les choses. Je crois que lui, c'est un véritable ami d'Israël, mais il était entouré des conseillers d'Obama qui poussaient au crime. Donc c'est pas un long fleuve tranquille. Donc ce qu'on sait surtout, c'est que, et ça c'est important pour Israël, et il faut qu'il cultive la relation au-delà du président. Et donc il y a deux places fortes aux États-Unis qui sont toujours solidaires d'Israël, c'est l'armée. Vous savez, tous les hauts officiers israéliens vont passer des mois, hein, voire des années aux États-Unis dans les écoles militaires. Les rapports entre l'armée israélienne et l'armée américaine au CENTCOM, qui est à Qatar, sont très étroits. Donc c'est l'armée. Et puis c'est le Congrès, c'est-à-dire les sénateurs et les députés qui sont au fond ensemble pro-israélien et qui reflète au fond ce qu'on peut appeler l'opinion publique, puisque c'est l'opinion publique, ce sont les électeurs qui votent pour le Congrès. Donc ça, c'est les deux places fortes et ça reste très fort. Et donc c'est pour dire que la relation évidemment avec Trump, elle est idéale. C'est un alignement des planètes. Tout est favorable à Israël, mais il y a deux mais. Le premier, c'est qu'il ne sera pas là tout le temps, Trump, et déjà se profile l'idée des midterms, des élections à mi-mandat dans 2 ans, qui pourraient amener un congrès républicain ou un Sénat républicain et qui empêcherait Trump de faire tout à fait ce qu'il veut. Bon, il pourra continuer à être l'ami d'Israël et à aider Israël, mais on voit bien que c'est... Même Obama a été obligé de mettre de l'eau dans son vin et d'aider Israël quand même s'il ne l'aimait pas. Et donc, il y a toujours un filigrane. Mais surtout, et ça c'est le plus important, en 67, Israël a reçu un traumatisme avec la trahison de De Gaulle. Et donc la conclusion a été, il faut compter sur ses propres forces, ce qui a fait qu'Israël s'est engagé dans une autonomie militaire, création d'une véritable industrie de la défense et surtout du développement technologique pour faire de l'armée israélienne l'armée la mieux armée technologiquement avec les États-Unis, avec d'ailleurs lesquels ils ont des relations technologiques très élevées. Et donc le danger toujours quand vous avez une Amérique trop proche de vous, c'est d'obliger au fond, et ça sera le cas de Trump, d'obliger Israël d'être son allié dans tous les domaines, y compris par exemple lorsqu'il voudra confronter la Chine. Ce qui n'est pas tout à fait l'intérêt d'Israël de confronter la Chine. Israël a des liens avec la Chine qu'elle veut conserver. Et donc une trop grosse dépendance d'Israël, trop grande dépendance d'Israël vis-à-vis des États-Unis, ce qui est le cas en ce moment, hein, c'est incontournable, est un danger potentiel pour l'avenir. Et donc je sais qu'en Israël, on est à la fois évidemment heureux de cette proximité avec les États-Unis. Je crois que c'est une chance extraordinaire pour les mois, les années qui viennent. Mais il y a toujours dans la tête des Israéliens l'idée qu'il faut jamais perdre de vue, qu'il faut compter sur ses propres forces. Et je pense que ça ne quitte l'esprit d'aucun dirigeant israélien, y compris Bibi.
Eh bien, Daniel Haber, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur Radio Judaïka pour nos conversations de cette semaine, la semaine prochaine.
Au revoir.